Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre premier débrief BBN Soccer de la saison 2024. On est déjà là, on est au premier débrief de la saison, donc le CF Montréal qui tire un verdict nul 0-0 du côté d'Orlando. Très peu d'observateurs s'attendaient à ça, très peu d'observateurs entrevoyaient un tel résultat, et je suis vraiment content de cette sortie-là du CF Montréal. On va regarder en détail un peu comment ce match-là s'est déroulé. Quel a été votre coup de cœur du match? Moi, personnellement, c'est Mathias Cocaro. Il a joué 67 minutes, un expected goal de 0.19, une statistique que je n'aime pas nécessairement, mais que je vous partage quand même. 3 tirs, 2 tirs cadrés, 5 fautes subies. Alors, c'est pour moi le joueur de cette rencontre-là. Alors, on va regarder ça, comment vous avez pensé à tout ça. Justin Ferland, qui est là avec nous sur la plateforme YouTube, qui dit « Yo! » Salut Justin, bienvenue. Stéphane Maltais, qui est avec nous également sur la plateforme Facebook et qui nous dit « Bonjour Jeff ». Sébastien, qui est là avec nous. Bonjour Jeff, bonjour à toi. Bonjour à tout le monde en passant. Et on a également Stéphane qui nous dit que Mathias Cocaro est également son joueur du match. Si je regarde le match dans son ensemble pour quelques-unes des statistiques qu'on a eues dans cette rencontre-là, Orlando a dirigé 19 tirs contre le CF Montréal. Seulement 5 tirs cadrés. Il est là le grand problème de Orlando dans cette rencontre-là. N'a pas été en mesure de convertir suffisamment de tirs en direction de Jonathan Sirois, qui a été bouillant. Bouillant dans ce match-là, on va se le dire, entame cette saison 2024 avec une fiche parfaite. Donc, jeu blanc, n'avait eu 11 la saison dernière, avait terminé au quatrième rang des gardiens pour cette saison-là. Justin nous dit « Mes coups de cœur sont Sirois, Cocaro et Roanne. » Donc, voyez-vous, et si je regarde Sébastien, joueur du match, Mathias Cocaro, mon flop, Bryce Duke, on va s'en parler un petit peu plus tard, Justin, qui dit Roanne, c'est surtout sa première victoire. Cédric, qui est avec nous, Cédric Gagné sur Facebook également, nous dit Roanne, Sirois, Cocaro. Pas vraiment d'ordre, mais c'est les trois coups de cœur. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder le segment dans le trafic de William. Donc, William qui est attitré, vous le savez, à la couverture des matchs du CF Montréal pour BBN Soccer. Il a publié après la rencontre, donc son segment dans le trafic avec l'analyse des joueurs. J'ai trouvé ça vraiment bien fait. On a travaillé fort, moi et William, là-dessus. Mais je donne le crédit à William. Là, c'est lui qui fait les analyses de ces rencontres-là. Alors, ça va être intéressant tout au long de la saison de suivre ça. On va vous les mettre sur l'ensemble des plateformes. Vous l'avez vu sur YouTube, vous l'avez vu sur TikTok, sur Instagram, sur X. D'ailleurs, si vous suivez avec la plateforme X présentement, n'oubliez pas, vous pouvez double-cliquer sur la vidéo. Vous aurez accès à notre salle de clavardage directement ici en studio pour que je puisse répondre à vos commentaires. Mathieu Cloutier, qui est avec nous, lui, via la plateforme Facebook, qui dit « Piet a également eu tout un match ». On va s'en parler également de la performance de Samuel Piet. Super job de William. Stéphane Maltais, qui est allé voir donc le segment dans le trafic de William. Et effectivement, pour vrai, là, c'est beaucoup de travail. C'est quand même long à produire et je pense qu'on a réussi à faire de quoi de très bien, de quoi qui va être vraiment intéressant tout au long de la saison à suivre. Fait que je pense qu'on va avoir du gros fun avec cette, ce segment-là dans le trafic. Je pense que ça va être plaisant. Et ça donne, avant le débrief, une bonne matière pour vrai à discussion sur ce que vous voyez, ce que nous, on interprète. Alors, c'est de toute beauté. Je vous présente là, rapidement l'image, mais allez voir sur le Twitter de BBN ou encore de William. On l'a sur la page Facebook. On l'a mis à peu près sur toutes les plateformes. Donc, vous allez voir l'analyse qu'on a fait, mais très bonne réaction de vous, auditeurs, auditrices. Donc, merci à vous autres. Campbell a fait de bons jeux défensifs, mais sa relance n'est pas terrible. Je vais entamer ça avec ce commentaire-là. Pour vrai, vous le savez, là, George Campbell n'est pas un de mes favoris défensivement. J'ai dit depuis le début du camp pré-saison qu'on était faible défensivement. J'ai pas haï sa prestation hier. Pour vrai, là, je pense que George Campbell a fait effectivement des beaux jeux défensifs. Faudra travailler sur la relance, c'est définitif. Mais je pense qu'on va travailler là-dessus, là, pour au moins là, une dizaine de rencontres avant de se mettre un peu partout à tous les niveaux. Sébastien dit « J'aurais aimé que Martinez marque le but sur la passe de Rouen. Ça l'aurait fait suer Orlando. » Je pense que les gens étaient prêts à Orlando, hein, du côté de l'Inter & Co Stadium, à accueillir Martinez, qui était attendu de pied ferme par les partisans d'Orlando, donc un joueur un peu détesté, on va se le dire comme ça, du côté de Orlando. Donc, il y a eu des réactions mitigées sur son entrée en jeu. Campbell, il montait très haut par moment et avec sa vitesse assez faible, ça faisait peur, mais son jeu défensif m'a convaincu, effectivement. Et depuis le début de la saison, Justin, Laurent Courtois, l'entraîneur-chef du CF Montréal, parle beaucoup d'équilibre. D'équilibre entre le choix de jeu et ce que lui veut voir en tant qu'entraîneur-chef. Donc, de trouver le moment où tu dis « Ok, je pense que je suis mieux de laisser faire sur cette séquence-là » ou encore « Ok, je vais y aller ». Donc, Campbell fait partie des joueurs là, qui doivent trouver cet équilibre-là. Mais quoi qu'il en soit, gang, il y a très peu de gens qui donnaient la victoire au CF Montréal hier, on ne se le cachera pas. Je fais partie de ceux qui donnaient une victoire au CF Montréal. On s'en sort avec un verdict nul. Et vous savez quoi? Je suis très satisfait de cette performance-là et je vais l'accueillir. J'ai quand même posé la question à l'entraîneur-chef Laurent Courtois après la rencontre, dire « Laurent, comment... C'est quoi le message que tu as passé à tes joueurs après le match? » Parce que très peu de gens vous donnaient la victoire, très peu d'observateurs vous donnaient ne serait-ce que le verdict nul. Donc, c'est quoi ce que tu avais comme message à passer à tes joueurs après le match? On écoute sa réaction.
C'était que... Voilà, on s'en fiche de ceux qui... Je m'en fiche de ceux qui sont d'accord ou pas d'accord. Voilà, je suis content de... Et même si, je veux pas trop en dire, mais je veux dire, même si on avait perdu dans ces conditions-là, mon constat, il aurait été le même. La performance et ce qu'on a voulu démontrer et sur les choses sur lesquelles on travaille, elles auraient quand même été là si le but n'était pas annulé. Tu vois, ça aurait pas changé. Je veux juste qu'on se... fiche, qu'on ne se trompe pas d'objectif. Des gens autour vont parler d'une manière ou d'une autre et c'est comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on contrôle? Nos actions et pas ce que les autres vont dire de nous. Donc, même si le hors-jeu n'était pas sifflé et qu'ils auraient accordé ce but, ça aurait été le même constat. on se serait pas tapé dessus juste parce qu'on avait perdu 1-0 avec une performance comme ça. Donc je le répète, non seulement la performance dans une meilleure des équipes de la Ligue, mais la façon dont tous les remplaçants ont pu contribuer et élever le niveau et beaucoup de joueurs qui auraient pu rentrer, que je n'ai pas pu faire rentrer, et d'autres joueurs qui n'ont pas été listés et qui seront dans l'effectif bientôt. Donc voilà, c'est des gros motifs de satisfaction. Et pour les staffs aussi, parce qu'ils ont travaillé beaucoup, away from home, je le répète, depuis un petit moment déjà. Et puis pour tous ceux qui nous regardent, j'ai reçu tellement de messages avant le match de supporters qui nous encourageaient. Et voilà, on ne pourra pas faire tout le monde content, mais c'est comme ça.
Alors, tu sais, vraiment content de cette déclaration-là, de cette réponse-là que m'a offert Laurent Courtois dans cette rencontre-là. Beaucoup de choses quand même dans ces éléments de réponse-là. Donc, faut pas se tromper de cible. Et le CF Montréal, soyons francs, là, a rencontré hier une des meilleures formations de l'Association de l'Est pour la saison 2024. On n'a pas joué contre une équipe de second plan. On a joué contre une des formations qui aspire au sommet de l'Association de l'Est pour cette saison. Donc, si on regarde tout ça, et je veux revenir sur le commentaire de Sébastien qui mentionnait, tu sais, j'aurais aimé, Jeff, que Martinez marque le but sur la passe de Rouen. Ça l'aurait fait suer Orlando. Tu as parfaitement raison, Sébastien. J'aurais aimé également que Opoku la mette au fond du filet. Je pense que ce match-là était disponible hier. Il était prenable pour le CF Montréal. Mais il faut regarder le contexte. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'aller voter sur le sondage de Mathieu de Ballon Rond. Mathieu posait la question, comme il le fait là, à peu près à toutes les fins de rencontre. Quelle note donnez-vous au CF Montréal pour la rencontre finalement qu'ils ont jouée face à Orlando? Et tu sais, à 72,5%, présentement, au moment où on se parle, là, les gens sont à donner un B. Donc, tu sais, moi, je pense que faut tenir justement compte de cette réalité-là. On aurait tous aimé que Joseph Martinez la mette dedans. Avec son statut, il est le cinquième meilleur buteur de la MLS, le troisième meilleur buteur au cours des cinq dernières saisons. Mais faut regarder la réalité. Joseph Martinez n'a pas pris part au camp d'entraînement, ou à peu près pas, n'a pas joué les matchs pré-saison. Donc, on ne peut pas en tenir rigueur là. Si Joseph Martinez ne met pas cette balle-là hier au fond du filet, au mois de juin, au mois de juillet, là, je suis déçu. Là, je suis fâché. Là, je ne suis pas de bonne humeur. Mais pour la rencontre d'hier, j'y en tiens pas rigueur. Même chose pour Opoku. Opoku, je vous l'avais présenté dans la déclaration, dans la disponibilité média hier. Je lui avais posé la question juste avant le match. Comment tu te sens? T'sais, on sait qu'il a manqué des matchs en raison de blessures. Il a manqué des matchs pré-saison. Donc, on a dit, je vais répondre présent. Je pense qu'il n'était pas à 100% de sa forme. Donc, tu sais, au vu et au su de tous ces éléments-là, pour vrai, je ne peux pas leur en tenir rigueur. Par contre, l'analyse de cette rencontre-là, si ce match-là se tient au mois de juin, au mois de juillet, n'est vraiment pas la même que je fais. Donc, pour hier, j'en tiens pas rigueur, mais il faudra regarder tout ça. Autre commentaire intéressant dans la déclaration de Laurent Courtois, je vais en profiter pour faire un lien avec le commentaire de Stéphane via la plateforme Facebook. Jeff, est-ce que tu t'attends à une rotation dans la charnière centrale? Moi, oui, avec Joaquin Sosa et avec Alvarez. Dans la rencontre d'hier, si vous l'avez écouté via MLS Season Pass avec Frédéric Laure et Vincent Destouches, Vincent Destouches a annoncé que le CF Montréal ferait l'annonce finalement prochainement de du défenseur de Superdraft, Grayson Doody, dans les prochains jours. Vous avez entendu la déclaration, la réponse à ma question de Laurent Courtois. Il a mentionné qu'il aurait aimé faire jouer plus de joueurs, dont des joueurs, à être listés prochainement avec l'équipe. Donc, je pense que ça vient confirmer que Grayson Doody sera avec la formation. On sait qu'il y en a également des jeunes qui sont aujourd'hui avec la sélection canadienne U20, soit dit en passant, qui connaissaient un bon match aujourd'hui. Mais est-ce que je m'attends à une rotation dans la charnière centrale? C'est clair que oui. C'est clair que oui, il y aura une rotation défensivement, pas seulement dans la charnière centrale, mais défensivement. C'est fort possiblement notre faiblesse présentement, ou à tout le moins, s'il y aura un bémol à mettre sur la profondeur de cette formation-là présentement, en vue de la saison 2024, c'est là, Stéphane, c'est défensivement. Donc oui, je m'attends à une rotation, moi aussi. Si on regarde le 11 du CF Montréal, j'avais projeté un 11, on est très, très, très près de ce qui s'est passé en réalité, parce que la seule différence, c'est que j'avais mis Opoku à la place de Bryce Duke. C'est la seule erreur que j'ai faite sur le 11 projeté BBN. Mais hier, Fernando Alvarez était disponible pour l'entraîneur-chef. Joaquin Sosa n'était pas encore dans la formation, mais je le vois s'en venir. Je le vois s'en venir dans les prochains matchs. Sébastien nous dit « C'est vrai que j'ai bien aimé ce que j'ai vu sur le terrain hier soir. Moi aussi, je donnais la victoire au CF Montréal 2-1, mais je prends le 0-0 et le merveilleux point sur la route. Le CF Montréal en a accueilli très peu, hein, Sébastien, des points sur la route la saison dernière. Donc, lorsqu'on regarde la saison 2023, dans son ensemble, le CF Montréal a connu très peu de succès sur les terrains ennemis. 2-13-2, c'est la fiche du CF Montréal. Donc là, on ramasse, on récolte déjà un point sur les territoires ennemis. On en avait 8 la saison dernière, donc c'est vraiment bien, on va le prendre, ce point-là. Jimmy Martel, avec nous sur Facebook, dit « Quand on entend peu parler de Corbeau, c'est très bon signe. La défensive était très solide, même si on a accordé beaucoup trop de corners. » Pour moi, Jimmy, lorsqu'un club accorde beaucoup de corners, c'est un signe, je dirais pas de détresse, défensif, mais c'est un signe de panique un petit peu défensivement. 9 corners ont été concédés hier à Orlando City. 2 seuls ont été attribués au CF Montréal. Donc, 9 corners et 25 centres, c'est énorme. C'est énorme. Donc, il faudra protéger le pied fort des joueurs adverses pour empêcher de centrer ces ballons-là. Mais il faudra faire preuve également de rigueur défensivement pour réussir à contrer cette panique-là qui existait visiblement dans le camp du CF Montréal, surtout en fin de rencontre, alors que Orlando s'est un peu ajusté. Le CF Montréal a parti très, très fort dans cette rencontre-là. Les premières minutes ont été à l'avantage du CF Montréal et Orlando a dû s'adapter. Et ça, c'est bon c'est un des points positifs de cette rencontre-là. Lorsque tu forces ton adversaire à s'adapter à domicile, c'est signe que tu as fait une excellente entrée dans le match. Jimmy nous dit « J'ai bien aimé l'entrée de Raheem Edwards. Ne semble pas être le même joueur que la dernière fois qu'il était avec nous. Opoku et Martinez ont fait du bien. Je veux qu'on se parle de Bryce Duke, okay? Parce que plusieurs voient l'entrée, bien sûr, de Opoku comme une entrée qui a fait du bien au CF Montréal. Et vous avez parfaitement raison, là, cette entrée-là a été une bonne entrée. Le CF Montréal avait besoin de changer un petit peu la donne dans cette rencontre-là. Bryce Duke a été utilisé énormément dans cette rencontre-là. Et je pense que malgré tout, il n'a pas connu un mauvais match, mais l'esprit derrière tout ça, nous, on le voit à court terme, on aurait aimé un résultat. Mais Bryce Duke, soyons francs, se retrouve après la saison 2023 avec un niveau de confiance en ses capacités relativement bas. D'ailleurs, il avait rencontré un psychologue sportif dans l'entre-saison, question de bien le focaliser. Et c'est difficile de se bâtir une confiance. C'est extrêmement facile de la détruire. Et je pense que c'est un peu dans cette veine-là que l'a utilisé hier Laurent Courtois en faisant appel à lui pour 83 minutes dans cette rencontre-là. Il a quand même pris un tir en direction du filet adverse, 46 touches de balle. Donc, dans l'ensemble, c'était pas totalement ça. 18 possessions perdues. Il a remporté un seul de ses 8 duels au sol. A été impliqué dans un duel aérien et il l'a perdu. Mais je pense que l'objectif, dans son cas, n'était pas une performance sur le match d'hier, mais une performance sur le long terme. Donc, Brunet Nico qui est avec nous sur Facebook qui dit est-ce que c'est un match raté pour Bryce Duke? Pour vrai, je le vois pas comme une performance ratée, mais comme un point de départ d'une croissance qu'il a de besoin pour la saison 2024. Bryce Duke, si le match qu'il nous présente hier arrive un peu comme je le mentionnais tantôt dans le cas de Joseph Martinez, si la performance d'hier arrive au mois de juin, au mois de juillet, je suis énormément déçu de son match. Par contre, hier, est-ce que c'est un match raté pour Bryce Duke? Je crois pas, sincèrement, mais je pense que c'est la mise en place d'une première brique sur « OK, Bryce, on a joué ton match, on t'a donné 83 minutes, voici ce qu'on a observé dans cette rencontre-là, voici sur quoi on veut travailler avec toi. » Et n'oubliez pas, Bryce Duke est un des éléments clés de cette formation-là. Olivier Renard a été le chercher quand même relativement à gros prix, si on compare l'expérience d'acquisition du CF Montréal dans son histoire. Donc, moi, je pense que c'est une preuve de confiance qu'on a démontrée à l'endroit de Bryce Duke et on avait besoin de ça. Maintenant, est-ce que Opoku, utilisé au départ pour les 83 minutes et l'entrée de Duke, à la 83e minute, est-ce que ça aurait avantagé le CF Montréal? Peut-être que oui. mais ça l'aurait fait sur le court terme et on n'aurait pas travaillé à ramener Bryce Duke au niveau qu'on on veut l'avoir. Parce que le CF Montréal, malgré tout, demeure aligné sur ses objectifs de recruter, former et vendre des joueurs. Et pour ça, ben, les joueurs doivent évoluer dans un climat de confiance. Alors non, Bruno, Brunet, Nico, je le vois pas comme un match raté. JS Sharp, qui est avec nous sur la plateforme YouTube, nous dit « Défensivement, les milieux de terrain n'étaient pas là. Pour vrai, vous le savez, là, moi, je ne mettais pas Mathieu Choignard au départ dans la titularisation. Je ne mettais pas Mathieu Choignard sur le 11 type. J'ai négocié, on va le dire comme ça, avec vous, mais non, pour vrai, j'ai discuté énormément avec vous. Et j'en suis venu à la conclusion que j'allais mettre Mathieu Choignard sur le 11 partant pour le match d'hier. Il lui, sa place était là. On l'a vu jouer. Pour vrai, pour moi, ça n'a pas été un des meilleurs matchs de Mathieu Choignard. Je l'ai senti lors de la deuxième mi-temps, presque invisible, mais défensivement, le milieu doit apporter davantage. On a vu un Samuel Piette très, très impliqué. Ça n'a pas été un match facile pour Samuel Piette, mais il a connu un gros match. Mais il a été tellement demandé. Il a joué 89 minutes. Il a réussi quand même 90% de ses passes. A remporté 4 de ses 6 duels au sol. C'était plus difficile par les airs. Il en a remporté 1 sur 5. Il a perdu 4 possessions de balles. Mais il a quand même 2 dégagements, 1 tir bloqué, 4 interceptions et 3 tacles. C'est quand même des bonnes statistiques dans les circonstances. Et je suis obligé de vous dire que ce ne fut pas un mauvais match. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir, on sait qu'on va jouer contre Dallas le prochain match, un point de comparaison. Donc, j'aimerais voir titulariser Victor Wanyama lors du prochain match. On a préféré, pour vrai, on a préféré Rida Zouir à Victor Wanyama. Je pense que c'est un message clair également qu'on envoie à Rida Zouir de son importance. Très peu de minutes jouées. On n'a pas analysé d'ailleurs la performance de Rida Zouir vu le peu de minutes qu'il a pris. Mais défensivement, c'est sûr qu'il faudra une contribution meilleure de nos milieux de terrain. Mais pour vrai, il y a eu quelques choix audacieux hier de Laurent Courtois et je ne suis pas certain que ces choix-là arrivent, comme je vous dis, si on n'est pas au premier match de la saison. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui est important pour Laurent Courtois, c'est quoi? C'est d'évaluer son personnel, c'est de construire la confiance démolie de 2023 de ces joueurs-là et de les faire progresser pour assurer un développement à long terme pour cette saison-là. Donc, pour la même raison, j'ai pas compris qu'on ait sorti Yankov hier plutôt que Bryce Duke, mais dans un regard à court terme. Parce que, comme je vous dis, à la fin de la journée, l'important, c'est pas de ramener un point hier. L'important, c'est de mettre la première pierre sur la construction de la saison 2024. Et Laurent Courtois l'a très bien joué, ça. Puis sur le court terme, peut-être qu'on va chercher les 3 points si on sort Bryce Duke plutôt que Yankov. Peut-être qu'on va chercher les 3 points si on sort Piette pour aller rentrer un Wanyama, qu'on sort un Choignard en cours de match. Lui, c'était difficile, Choignard, hier, un petit peu plus. Donc, effacé versus ce qu'on a vu. Mais sinon, dans l'ensemble, si on regarde sur le long terme et non le résultat proprement dit du match, moi, je pense que Laurent Courtois a pris les bonnes décisions. Sébastien nous dit « Je pense que Coccaro va faire peur à plusieurs équipes cette année, car hier, les joueurs d'Orlando étaient toujours souvent sur lui. » Je vous avais mentionné sur les balados de la mise en route vers 2024 que Mathias Coccaro, une des statistiques qu'on tient très peu compte dans la MLS sont les fautes subies. Donc, les fautes contre lesquelles le joueur obtient soit une carte, soit un direct, peu importe. Bref, chaque fois qu'on déclenche une faute, à 5 occasions hier, c'est arrivé à Mathias Coccaro. Et ça, c'est une statistique qui est vraiment importante, qui est vraiment intéressante et qui ne va pas amener des points, qui ne va pas amener des buts à Mathias Coccaro, qui ne va pas amener des passes décisives. Mais de faire prendre une faute à l'adversaire dans la zone payante, de faire prendre une faute à l'adversaire, juste de rentrer dans la tête de l'adversaire et de sortir l'adversaire de son match, c'est de toute beauté. Justin nous dit « J'ai vraiment aimé les 5 premières minutes de jeu. Le momentum a vraiment été du côté du CF Montréal en ce début de rencontre. Orlando s'est ajusté. Orlando a pris quand même le contrôle, là, je suis obligé de vous le dire, relativement de presque tout le match, à part peut-être là, une séquence en deuxième, au milieu de la deuxième demi où le CF a vraiment repris le momentum. Mais effectivement, très belle entame de match pour la troupe de Laurent Courtois. Un match neutre pour commencer l'année. Et pour vrai, c'est un excellent match, Simon. Je ne sais pas si tu as chanté dans ton salon. C'était important de chanter et de les soutenir. Mais c'était un excellent match dans les conditions actuelles. Tino, avec nous sur Facebook, dit « Duke est un poids-plume ». Il travaille énormément là-dessus. Bryce Duke a fait des séances d'entraînement, de prise de masse dans l'entre-saison. Je pense qu'on va le voir là, prendre de la masse en cours de saison. Le travail va se continuer, ça ne change pas sur le court terme. Mais effectivement, doit être beaucoup plus solide, principalement dans la position qu'il occupe et le rôle qu'il occupe. Donc, oui, il doit prendre de la masse. Justin dit le tac de Cartagena sur Coccaro. Lui méritait-il un carton rouge? Pour vrai, je fais un petit aparté, là, puisque le commentaire arrive sur la plateforme YouTube. Dans le match d'hier, gang, et j'ai écouté presque tous les matchs de la MLS, parfois en diagonale, je ne vous le cacherai pas, là, je ne peux pas toutes les voir assis, concentrés, mais pour MLS 24-7, on essaie de suivre tous les matchs. MLS 24-7, soit dit en passant, une petite plug, vous sera présenté mardi avec le tour d'horizon de ce qui s'est passé dans la première semaine. Ça n'a pas bien été dans mes prédictions. Mais tout ça pour vous dire que présentement, il y a un conflit qui fait rage, vous le savez, au sein des arbitres de la MLS. On fait appel à des arbitres extérieurs à la MLS. Et pour vrai, c'est sûr qu'il y a des décisions qui retiennent l'attention. Et on va rapidement dire, oh, ça paraît que ce n'est pas les vrais arbitres de la MLS, mais que vous écoutiez des matchs, peu importe sa planète, à tous les jours, on remet en doute, on remet en question des décisions arbitrales. Donc, le match du CF Montréal d'hier ne fait pas exception, mais depuis le début de la saison, qui est encore très jeune, ben, pour vrai, j'ai trouvé qu'il faisait un travail correct. Vu les conditions dans lesquelles il évolue, vu le fait que c'est des jeunes arbitres, que toutes les formations le savent, que les joueurs les plus expérimentés vont essayer d'aller chercher d'aller mettre de la pression sur les arbitres pour aller chercher des décisions favorables. Pour vrai, le tac de Cartagena hier était très, très, très limite. Je pense qu'effectivement, ça aurait pu se terminer en carton rouge. Mais dans l'ensemble, je pense que les arbitres ont bien fait hier face à cette réalité-là de la MLS. Simon nous dit, c'est seulement le match numéro 1. C'est trop vite pour critiquer Bryce Duke. Ben, c'est exactement ça dans la condition actuelle. Je ne vous dis pas que Bryce Duke aurait eu une saison de feu la saison dernière, qui aurait terminé là, au sommet et qui aurait vogué là, un peu comme l'a fait. Et c'est pour ça que je suis un petit peu plus critique à l'endroit de Mathieu Choignard. C'est que la préparation en vue de cette saison-là, elle est complètement à l'opposé Bryce Duke versus Mathieu Choignard. Donc, dans les circonstances, je ne veux pas qu'on s'acharne sur le dos de Bryce Duke parce que c'est le match numéro 1. Il doit rebâtir sa confiance qui a été ébranlée la saison dernière. Donc, dans cette situation-là, je lui tiens pas rigueur de son match et je pense que dans les circonstances, il a livré une prestation somme toute raisonnable. Jimmy mentionne que Saliba aurait bénéficié d'un match ouvert au centre comme c'était le cas hier. Moi, je pense que oui, Jimmy, et je pense que ça aurait été un plus sur ce qu'a apporté Mathieu Choignard, parce que Saliba, bien qu'il se définit personnellement comme étant un joueur numéro 6, s'il y a un joueur qui est capable de nous amener le fameux box-to-box qu'on a souvent recherché à Montréal, je pense que c'est lui. Je pense qu'il a les capacités de le faire. Et hier, tu n'avais pas le choix de partir avec Mathieu Choignard. Tu n'avais pas le choix de débuter avec Samuel Piette. C'est le premier match de la saison. Piette, c'est ton capitaine. Mathieu Choignard a connu une saison incroyable. MVP de cette formation-là la saison dernière. Je le vois mal l'asseoir sur le banc. Et il y a une congestion au milieu, vous le savez. Donc, je pense que dans la réalité d'un premier match, c'était correct, mais Saliba, effectivement, Jimmy, je suis à la même place que toi, aurait eu avantage de cette rencontre-là. Simon nous dit « J'ai adoré la défensive, elle n'a pratiquement rien accordé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pression, Simon, de mis hier par Orlando dans cette rencontre-là. Énormément de pression et on sort de là avec zéro but accordé au final. » C'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Et je pense que défensivement, on manque un peu de profondeur. Mais je vous l'ai dit, moi, j'avais des doutes à l'endroit de George Campbell. Dans la situation actuelle, je suis obligé de vous dire qu'il a fait un fort match. Est-ce que hier, si je prends la performance de Waterman, est-ce que dans le match d'hier, on s'ennuie de Rudy Camacho, je suis toujours obligé de vous dire non. Et Gabriele Corbeau a livré une performance solide, pas impeccable, pas wow, pas à tout casser, mais a jamais mis son équipe en difficulté. Et c'est intéressant. Alexandre Valcourt sur Facebook. C'est vraiment le fun, gang. Je fais encore une petite aparté de vous sentir autant impliqué. D'avoir autant d'interactions avec vous, c'est vraiment plaisant parce que depuis tantôt, je lis et je prends vos commentaires, beaucoup d'interactions et beaucoup de gens qui s'impliquent. Je rappelle que si vous écoutez sur la plateforme X ou Twitter, double-cliquez sur la vidéo, vous allez avoir accès à la salle de clavardage. Alex, donc, qui dit « C'est agréable de te retrouver pour la nouvelle saison 2024 ». Peut-être y répondras-tu plus tard. Question sur la gestion de l'effectif avec la MLS. Le championnat canadien, la Coupe des Ligues, comment tu vois ça? Le CF Montréal, Alexandre, a la chance d'avoir un bail en première ronde du championnat canadien. Je pense que ça va donner un break à Laurent Courtois pour vraiment peaufiner son travail de construction et de mise en place de son effectif. On est au jour 1. De 34 dans la mise en place de tout ça. On ne pourra pas attendre 34 matchs, on va se le dire, avant de trouver la formule parfaite et l'adéquation qui va faire que ce club-là obtiendra des résultats positifs. Mais gestion de l'effectif. Le championnat canadien, malgré qu'on ait un bail en première ronde, on va attendre le gagnant de York et de Forge. J'entrevois Forge encore une fois. Ça aurait été le fun de faire changement, mais je pense que dans les cartons, Forge est une équipe dominante en première ligue canadienne, donc c'est eux qu'on devrait affronter. Mais ce sera le temps de jouer avec l'effectif en championnat canadien pour vraiment donner du temps de jeu à nos plus jeunes, à ceux qui sont sous-utilisés ou encore à ceux qu'on veut donner des objectifs de développement clairs. Je vous donne un exemple. Bryce Duke, hier, Alexandre, a été utilisé énormément, 83 minutes dans le match par l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Mais il doit avoir une analyse du travail de fait dans le bureau, homme à homme, Laurent Courtois, Bryce Duke. Voici comment j'ai vu ton match. Voici comment je l'interprète. Voici comment je le vois. Et voici, à partir d'aujourd'hui, tu sais, vers quoi on veut aller. Et tranquillement, pas vite, Bryce Duke va reconduire et il va reconstruire surtout cette confiance-là qu'il a dans ses capacités. Mais de le voir impliqué dans un match de championnat canadien où la pression va venir un petit peu moins rapidement, où la vision du jeu va être meilleure, par le fait que le CF Montréal devrait avoir un avantage sur son adversaire. Ça aussi, ça va être important dans la gestion de l'effectif et dans la construction de la confiance des jeunes joueurs. Donc moi, pour le championnat canadien, je veux qu'on garde une structure, OK? Je veux pas qu'on ait 11 jeunes joueurs sur le terrain, mais d'utiliser, par exemple, un Vilsain avec un Martinez et un Yankov dessous. Mais là, je viens de mentionner Bryce Duke. Donc, d'utiliser un Vilsain avec un Duke et un Martinez, pour moi, c'est logique. D'avoir un Saliba avec un Wanyama, c'est logique. D'avoir un Saliba, un Alvarez défensivement avec un Waterman et un Gabriele Corbeau, c'est logique. Donc moi, c'est comme ça que je veux qu'on l'utilise, d'utiliser un Grayson Doudy sur le flanc droit, mais de laisser Lasseter sur la gauche. Je pense que ça peut aider également. Donc c'est comme ça que je vois la gestion de l'effectif du championnat canadien. Coupe des ligues, je pense que tu y vas all-in, c'est un tournoi, tu y vas avec tes meilleurs éléments du moment. Donc, pour moi, si tu veux remporter des matchs et avancer en Coupe des ligues, ben, tu dois y aller à fond avec l'effectif qui t'amène des résultats là. Parce que la Coupe des ligues, on est vraiment dans un tournoi, on est vraiment dans, tu dois gagner à court terme. Donc là, il n'y a pas de « on construit la confiance d'un tel, on essaie d'évaluer un tel ». Tu veux gagner, tu mets ton meilleur 11 du moment, comme si chacun des matchs serait ton match de finale de Coupe MLS. Donc, on y va comme ça. Une chance qu'ils n'ont pas appelé le penalty à la fin, car c'était vraiment tiré par les cheveux. Il y avait clairement un hors-jeu sur la séquence, donc content qu'on ne l'ait pas appelé. Wanyama finit-tu l'année? Oui, il va terminer l'année. Sera un élément important dans la construction de cette formation-là pour 2024, Serge. Moi, je le vois comme ça. On ne l'a pas vu là. Pour quelques bonnes raisons. Moi, je pense qu'on fera appel à Victor Wanyama face à Dallas lors du prochain match. Et tranquillement, pas vite, il va reprendre du galon sur l'alignement au fur et à mesure qu'on va avoir réussi à bâtir là, cette confiance-là qui doit être reconstruite sur les jeunes joueurs. El Marco nous dit « J'ai vraiment été surpris de Yankov. Il était très physique, toujours à la recherche du ballon. J'ai adoré son match. Je suis à la même place que toi, El Marco. J'ai adoré le match de Yankov dans les circonstances, encore une fois. Même chose un peu toutes les autres. À la fin de la journée, on est quand même dans le jour 1 sur 34 dans la MLS pour le CF Montréal. Il arrive, il doit s'adapter non seulement au système de l'entraîneur-chef, doit s'adapter à ses collègues de travail, doit s'adapter également au niveau de jeu de la MLS, doit apprendre à connaître ses adversaires, le style de jeu. Donc, à partir du moment où le CF Montréal aura joué un match contre toutes les formations, Yankov va être encore meilleur. Du moins, c'est ce que je vois. Toronto et Cincinnati, le match finit 0-0 aujourd'hui. Plusieurs joueurs de Cincinnati n'étaient pas là. Je vois une descente, Sébastien. On va s'en parler dans MLS 24-7, donc je ne m'attarde pas longtemps. Mardi, dans MLS 24-7, on fait le tour des matchs, mais grosse prestation du gardien de but, Sean Johnson. Encore très difficile défensivement du côté de Toronto dans cette saison-là. On sait qu'ils viennent de faire quelques bonnes prises défensives. Eux autres aussi sont en reconstruction un peu. Nouveau cycle du côté de Toronto. Ou fin de cycle peut-être, là, plus que nouveau cycle, parce que Insigne et Bernardeschi sont encore là pour le moment. Je ne m'attends pas à leur présence sur le long terme. Mais Cincinnati, moi, je les voyais en recul cette saison. Je pensais quand même qu'elle allait remporter leur première, le premier match de cette saison-là, eux qui étaient à domicile. Mais je pense que la victoire réside dans le match qu'a gardé Sean Johnson. Et il a été élu, d'ailleurs, joueur du match. Quel joueur t'a le plus impressionné dans ceux que tu n'as pas extrêmement d'attente? Pour vrai, j'ai vraiment collectivement trouvé qu'on avait livré une bonne performance. Pour vrai, Yankov, pour moi, sera un des éléments clés de cette formation-là pour cette saison-là. Donc, je pense que le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est Yankov, parce que je m'attendais à une adaptation, je trouve, qui est déjà là. On a vu de quoi de bien. Coccaro, excellent match. Pour moi, c'est lui qui a livré la meilleure prestation hier, mais il ne m'a pas impressionné parce que c'est ce que je m'attendais dans la livraison de ce qu'il a fait hier. Mathieu nous demande, faut pas oublier que la défensive a créé plusieurs hors-jeux par son synchronisme, le fait d'avoir joué une saison ensemble compte possiblement pour beaucoup. C'est définitif. Défensivement, je pense qu'on peut remettre une belle carte, une belle note au CF Montréal pour la rencontre d'hier. Donc, je crois sincèrement qu'ils ont bien fait. Et cette cohésion-là défensive, Mathieu, c'est bien que tu le rappelles, c'est bien que tu le ramènes. Parce que c'est ce que je voulais démontrer, c'est que tu dois avoir un équilibre entre ta jeunesse. Et c'est ce qui a manqué. Plusieurs ont dit, on s'est fait défoncer en pré-saison. Je vous ai dit, gang, l'entraîneur-chef ne vise visiblement pas à remporter des matchs dans la pré-saison. Et c'est ce qu'on a vu. C'était pas l'intention de Laurent Courtois. Et ce synchronisme-là, Mathieu, que tu appelles aujourd'hui, ben, n'était pas possible dans la pré-saison alors qu'on essayait beaucoup de choses. Donc, je pense que, visiblement, maintenant qu'on se rapproche du 11 type, c'est clair qu'il y a un synchronisme qu'on n'avait pas nécessairement la saison dernière qui prend place cette année. Le problème avec Bryce Duke, nous dit Jimmy, c'est qu'on s'attend à Montréal qu'il produise autant que Mihailovic. Ça viendra peut-être un jour, mais il n'est vraiment pas là. Un Duke avec le chien de Coccaro, il sera une des vedettes de la MLS. Et vous savez quoi? Moi, je pense sincèrement, Jimmy, qu'on s'en va vers là. Je l'avais mentionné la saison dernière. Moi, je pense que Bryce Duke va être, sur le long terme, meilleur que Mihailovic, et j'en suis convaincu. Maintenant, il faut lui donner la confiance, il faut lui donner le temps de jeu, il faut l'entourer également de joueurs qui vont l'amener à stepper up. Je pense qu'on s'est trouvé en Rouen un joueur qui peut produire autant, sinon plus, qu'Alistair Johnston. Très aimé sa foudre, oui. Même chose. Par contre, l'assetteur Rouen, hier, doivent être plus vigilants pour moi défensivement. Donc, dans la portion offensive, c'est énorme, les sprints et tout ce qu'ils peuvent donner. Par contre, j'aurais de la misère à qualifier de A le travail de Lasseter et Rouen, tout simplement parce que, tu sais, au final, on accorde 25 centres à l'adversaire. C'est énorme. Faut vraiment casser ça rapidement parce que on va se faire démolir éventuellement. Orlando, malgré tout, manquait des bons éléments hier et était comme nous au premier match de la saison. Mais sur le long terme, on doit beaucoup moins donner la capacité de centrer vers l'axe à l'adversaire. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Cédric Gagné nous dit « Quel avenir pour Mason Toy? Malgré toutes les chances, ça ne fonctionne pas. En ajoutant des nouveaux joueurs offensifs, il n'a plus tellement de place pour lui. » Moi, je pense sincèrement, gang, que c'est terminé pour Mason Toy sur le long terme. Il est là. Il est dans l'effectif. On va le prendre. Mais visiblement, je pense qu'il n'y a pas de projet à long terme. Je pense que Mason Toy aura, en 2024, la saison que Ahmed Hamdi a connue en 2023. Pour moi, il n'y a pas d'avenir à long terme avec la formation. Un joueur qu'on ne parle jamais, sauf quand il fait des fautes, Campbell a joué un match presque parfait. S'améliore Jimmy, énormément, Campbell. Je pense qu'il fera partie d'un élément important de cette brigade défensive cette saison. Crois-tu que Miami pourrait gagner la Coupe MLS? On s'en parle mardi. El Marco dans MLS 24-7. Ce soir, on reste vraiment sur le CF Montréal, mais Miami sera un aspirant sérieux à la Coupe MLS. Mais pour vrai, je crois plus aux chances d'Orlando de gagner cette coupe-là. Et moi, ma prédiction, là, avant le début de la saison, c'est Orlando-LA Galaxy en finale de la Coupe MLS. Sébastien nous dit « Quand n'est-il du conflit avec les arbitres? Penses-tu que ça va être réglé? Car dans plusieurs matchs, l'arbitrage a été pénible. » Bien, comme je dis, c'est récurrent. Hein? L'arbitrage, c'est un sujet de discussion qui est toujours à l'avant-plan, peu importe que ce soit des arbitres MLS ou pas. C'est vrai pour la MLS, c'est vrai dans l'ensemble du circuit, c'est vrai dans l'ensemble des circuits. Même dans le top 5, on voit des décisions qui ne font ni queue ni tête. C'est pas facile d'être arbitre. C'est un job très compliqué. Mais pour vrai, je pense que ça n'a pas été si pire que ça dans l'ensemble là, des matchs. Mais oui, quelques décisions pénibles, quelques positionnements là, étranges du corps arbitral. La VAR qui est venue sauver, mais tu sais, on va se le dire, ça sert à ça. La VAR qui est venue sauver quelques mauvaises décisions. Mais j'ai pas de développement à ce moment-ci, Sébastien, sur l'évolution du dossier. J'ai aimé nos relances offensives, nous dit Simon. Les joueurs ne paniquaient pas avec les ballons, c'était aligné. On sortait de notre zone, aisément de notre zone comparativement à la saison passée. On paniquait pas dans notre territoire. Effectivement, là-dessus, moi, je m'attendais, Simon, à voir un CF Montréal beaucoup plus paniqué. Et à la fin de la journée, j'ai trouvé qu'on avait livré une performance sur 90 minutes plutôt aboutie. Pas trop dans la panique. C'est sûr qu'on a accordé beaucoup de corners. Ça, défensivement, bon, c'est peut-être un signe de panique, mais dans l'ensemble, pour vrai, face, faut pas l'oublier, à un des aspirants à la Coupe MLS, une des excellentes formations dans l'Est, Je pense qu'on on a fait un travail, somme toute, plus que raisonnable. Si le CF se rend en Champions League, commentaire de El Marco, où vont-ils jouer leur match à domicile vu que le stade olympique est fermé pour quelques années? On ne le sait pas à ce moment-ci. Ça sera une problématique sérieuse pour le CF Montréal. Dépendamment d'à quel moment on va jouer ces rencontres-là, il commence déjà à avoir plus ben de neige, hein? À Montréal. Donc, tu sais, il faudra voir comment on va jouer ces matchs-là, mais c'est sûr que de jouer ces terrains, ces matchs-là en terrain neutre, ça sera pas l'idéal. Ça sera pas l'idéal. Ça va être un désavantage, même, je dirais, pour le CF Montréal. Donc, mais pour l'instant, il n'y a rien de statué. On est encore à rechercher la solution parfaite chez le CF Montréal. Kyoto est plus à Montréal. Non, Kyoto est parti, Simon. Et ça va faire grand bien à cette formation-là, je pense. La clé défensivement sera Waterman. On pourra mettre Corbeau, Sosa, Alvarez à gauche, Corbeau, Campbell à droite. Je pense que, pour vrai, la défensive va bien se jouer, malgré que j'avais décelé une faiblesse dans la profondeur. Et on va le voir, le Torque blessé, Alvarez pas capable de jouer. Tu sais, Doudy, qui n'est pas encore officiellement signé avec le club, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile défensivement. Et ça a tenu, ça a tenu. Mais on a senti une grosse pression. Un peu de panique par moment, mais dans l'ensemble, une belle prestation. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas jouer avec ces trois joueurs-là pendant 90 minutes, pendant 34 matchs, comprenez-vous. Donc, c'est là qu'il faudra trouver un équilibre intéressant. Mais tu vois, Campbell, pour moi, est un joueur de profondeur, est en train de démontrer qu'il peut être un joueur titulaire. Mais ça va être bien. Donc, lorsque Sosa sera prêt, il n'était pas avec le groupe hier, mais lorsqu'il sera greffé au groupe, capable de prendre des bons matchs, je pense que le partage des tâches, de voir peut-être un Sosa à gauche, Waterman dans le centre, Gabriel et Corbeau à droite, partager les minutes avec Campbell, ça va être logique. Portland a joué un gros match. On s'en parle, Simon, mardi dans MLS 24-7. Mais effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Très grosse prestation des Timbers de Portland pour lancer le calendrier 2024. Miami, jamais. Je pense que les commentaires sont unanimes. Miami va manquer de jambes, je vous le dis. Et on va le voir tantôt, là. Je pense que c'est la plus grosse carte, là. Pour moi, LA Galaxy sera un adversaire plus coriace que l'a été Real Salt Lake en ouverture de rideau pour Miami. Ça va être intéressant, là, le match ce soir, donc manquez pas ça. Je vous invite à l'écouter. On s'en reparle mardi soir dans MLS 24-7, mais pour moi, Miami ne se rend pas jusqu'à la fin. Ça, c'est définitif. Tu regardes en Liga, les arbitres se font sévèrement critiquer, mais c'est partout. À tous les jours, El Marco, on voit des commentaires sortir sur la prestation des arbitres et c'est pas facile pour personne. Pour les habitants de l'Est du Québec, j'en suis un. L'espoir d'accueillir un club de CPL à Québec devient-il plus tangible? Soccer Québec avait initié une étude de marché pour évaluer l'intérêt d'un tel projet. Est-ce possible une affiliation directe entre les clubs de CPL et ceux de la MLS établis, les deux ligues opérant indépendamment l'une de l'autre? Alex, je vais refaire un balado très prochainement là-dessus parce que le dossier ne cesse d'évoluer à Québec pour le club. L'enjeu demeure le stade. Présentement, il y a le stade TELUS qui est disponible, qui pourrait être disponible, mais on ne voit pas une formation arriver là à long terme. Donc, ça serait temporaire. Maintenant, est-ce que les propriétaires, les dirigeants, c'est là la question qu'il faut se poser, voient d'un bon œil l'arrivée d'un club CPL dans leur établissement? Je pense que C'est pas gagné. C'est pas gagné. Et je pense qu'on ne veut pas que la CPL vienne faire ombrage au football bien implanté du Rouge et Or. On va s'en reparler. Mais on va entrer dans tous les détails là, de tout ce qui se passe au niveau de la CPL. Puis, tu sais, ce soir, on est vraiment dans le débrief du match, Alex, mais faut vraiment en revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais non, un club ne peut pas être un club école. Juste répondre à ta question rapidement. Le CF Montréal ne pourrait pas avoir un club école dans la CPL. Mais par contre, peut avoir un club satellite. Tu sais, on peut le jouer. On peut le jouer différemment. Mais comme on voit, l'Atlético Ottawa n'est pas un club école de l'Atlético Madrid, est un club satellite. Est-ce que le CF Montréal pourrait avoir un club satellite? C'est quoi les différences? On va en revenir puis on va s'en parler. Wellington dit « Jeff, Bryce Duke, Opoku, si tu comptes les développer et les vendre, tu te tires une balle dans le pied. Duke ne franchirait pas le prochain palier. » Bryce Duke, Wellington, j'en suis convaincu, sur le long terme, va être meilleur. Écris ça, là, je l'ai mentionné la saison dernière. Je maintiens mon point. Va être meilleur que l'a été Georgi Mihailovic. Opoku n'a pas l'instinct du tueur. Nous l'avons vu hier. Ils feront leur carrière en MLS. Opoku va être excellent. Opoku est encore jeune, a des choses à travailler, mais il va avancer. Il a eu la chance de voir jouer des Denis, Buanga, des Carlos Vela pendant qu'il était assis sur le banc à les regarder. Ça aussi, c'est bon dans le bagage d'expérience. Donc, à terme, je vous le dis, il va atteindre ses cibles. Mais je dis hier, le pub Burgundy Lyon était... hier, on en était en feu, c'était plein, très belle soirée. J'ai vu des images, j'ai vu des vidéos. Sébastien, ça va l'air fou, l'ambiance là-bas. Wellington dit, Jeff, un jeune à qui il faudra donner une chance, c'est Ousmane Djabang. Il a du potentiel. J'espère que Laurent Courtois lui donnera sa chance. Même principe, faut juste pas tuer ce talent-là, Wellington. Faut l'encadrer, faut l'entourer. Mettre Djabang, j'ai aucun problème. Par contre, il faut vraiment le mettre dans un contexte où c'est possible pour lui d'évoluer, où c'est possible pour lui de se construire, de se faire une confiance et de jouer. Donc, je pense qu'on va pouvoir aller de l'avant. Simon, comment t'as pris de bière, Jeff, hier? Zéro, Simon, parce que bonne raison, là. Regarde, ici, check bien ça, Simon. On voit pas, hein. Tu vois-tu la podcast BBN? C'est notre bière à nous autres. Check ça, mon Simon. Regarde, on a la podcast BBN fait par nos amis de la Forge du Malte. Donc, une bière supporteur, personne qui encourage donc une équipe. Quand tu as soif de sport, la bière qui rassemble, c'est la podcast BBN. Excellente cuvée. Mais hier, on fait grandir la culture soccer à BBN. Hier, on était à un tournoi de futsal. On présentait le match du CF Montréal sur écran géant là-bas. Beaucoup de discussions avec les jeunes, avec les parents des jeunes également. Donc, c'était vraiment plaisant. Mais j'aurais mal paru d'être assis là avec ma bière. Donc, zéro pin bar. Puis, il fallait que je revienne à la maison après ça. Crois-tu que le développement des jeunes... crois-tu pour le développement des jeunes, commentaire de El Marco, que le CF Montréal devrait avoir une équipe MLS Next Pro maintenant que leur coach en chef qui a fait ces classes-là, je suis convaincu qu'il faut s'en aller vers là. Je pense qu'il y a plus de chances pour Giroud que pour Mbappé à Montréal. Effectivement. Wellington nous dit « Cette équipe promet, au vu de la prestation d'hier, Bryce devrait jouer les 10 dernières minutes. C'est un flop. » Non, vraiment pas, Wellington. Je pense que Bryce Duke va énormément grandir cette saison. Les Revs ont vraiment déçu, m'ont déçu également. Simon, on en revient mardi dans MLS 24-7. Il est à quelle heure le match de Miami? Le match de Miami est présenté ce soir sur MLS Season Pass. Bien sûr, je ne sais pas si il est en... Y es-tu en rediffusion? Pas en rediffusion, mais il n'est pas disponible. C'est 9h ce soir, heure de l'Est. Donc, le match de Miami. Qu'est-ce qui s'est passé avec New York City? On s'en reparle. On s'en parle mardi dans MLS 24-7. Justin dit, j'habite à Québec. J'aimerais ça avoir un club de CPL. Justin, je suis de Québec. Je viens de la grande région de Québec. J'ai passé la majeure partie de ma vie à Québec. Je pense que Québec sera en CPL très prochainement. Moi, Justin, tu es de Québec. Là, peut-être que pour les autres, je vais parler en chinois dans les prochains instants, mais juste faire un aparté. Justin, un stade au Parc Victoria, ça serait magique. Le stade de Beauport également, Marc Simoneau pourrait être une belle solution, Justin, à Québec pour un club de CPL. Il y a un terrain extérieur. Tu sais, à Marc Simoneau, là, il y a un terrain extérieur. Il y a beaucoup de vent, là, quand même. C'est le désavantage de ce terrain-là. Mais je pense qu'il y a une place pour faire un stade là, à Beauport. Mais je pense que ça pourrait être très, très bien. Il y en a qui parlent d'un stade, Alexandre nous dit, de la CFL, de 25 000 places près du IKEA. Est-ce que c'est là la porte de sortie? Moi, je pense que ce développement-là, là, t'as le IKEA, t'as le magasin de sport là, juste en face. Le nom m'échappe, là, je sais pas pourquoi j'ai atmosphère, mais en tout cas, les gens de Québec savent de quoi je parle, même si le nom m'échappe, là, mais c'est pas atmosphère. Mais effectivement, dans ce coin-là, il y a de quoi à faire. Simon nous demande, Jeff, comment que le CF Montréal va aller chercher de points sur la route pour commencer la saison? Moi, je pense que Décathlon, Justin, c'est exactement ça. Ou le Décathlon, t'as le IKEA. Ben, je pense que derrière ça, un stade CFL, CPL, ce serait magique. Faut que ce soit le même propriétaire. Maintenant, est-ce qu'on est intéressé à voir un propriétaire qui a des intérêts en CFL, faut voir. La CPL est très exigeante concernant les stades, mais on va s'en reparler dans un autre balado, la gang, pour ça. Donc, je clôt le podcast d'aujourd'hui, fait que je descends les messages vite, vite, vite. Combien de points vont chercher le CF Montréal sur la route pour commencer la saison? Il y a 6 matchs. Moi, je pense que 7 points, ça serait un bon résultat, Simon. Crois-tu que le match de Dallas de samedi contre Dallas est prenable aussi pour Montréal et faire des points? Je suis définitivement convaincu que ce match-là est prenable vu la performance qu'on a offert hier. Si on prend un point, c'est excellent, mais ça sera difficile. Même chose que Stéphane, par contre. Là, je parle pas de ramasser 3 points à Dallas, mais de prendre un point, ça serait magique. Un jeune qui pourrait signer à l'extérieur, ce serait Jonathan Sirois. On en parle très peu, hein, mais match après match, c'est sûr qu'il le prouve. Match après match, il nous démontre qu'il est bon, qu'il est solide. J'avais hâte de voir son entame de saison 2024 parce que la plus dure, le point le plus dur pour un jeune en MLS, n'est pas d'avoir une bonne saison, mais de confirmer lors de la deuxième saison. Et c'est ça qui est difficile en MLS. Sirois, est-ce qu'il va confirmer ce qu'il a démontré en 2024, en 2023? Je crois qu'il va être capable. Jeff, j'aimerais me tromper sur le cas de Bryce Duke. Tu as dit la même chose d'Ofor. Il est aujourd'hui en prêt. J'ai pas dit qu'Ofor allait être meilleur que qui que ce soit. J'ai dit qu'il allait continuer à se développer. C'est autre chose. Bryce Duke, j'ai dit depuis le jour 1, il va être meilleur que... voyons. Georgi Mihailovic, et je le crois encore aujourd'hui. Hey, là-dessus, je tire la plug, c'est l'analyse qu'on faisait tous ensemble, c'est le fun, du premier match du CF Montréal. Le prochain sera face à FC Dallas. Miami est en action ce soir, 20h. Ne manquez pas, mardi soir, MLS 24-7, on s'arrête. Il y a eu beaucoup de commentaires ce soir, mais mardi... on s'arrête sur tous les matchs qui ont eu lieu dans cette saison-là. Je suis, Alex, également un représentant de la Camaradière, finissant édition 1998. Donc, bonne soirée à vous tous. Là. Les bonnes soirées arrivent. Sébastien dit « Merci, Jeff, pour ton podcast. C'est un plaisir de vous le livrer. » Stéphane dit « Merci, Jeff. » Bonne soirée à toi, bonne soirée Stéphane, merci Wellington d'avoir été là, merci à tous vous autres. Donc on se rejoint, prochain balado, mardi soir, MLS 24-7, c'est un rendez-vous. D'ici là, bon match, l'Inter Miami va s'incliner ce soir face au LA Galaxy. Méfiez-vous pas à mes prédictions, on s'en reparle mardi.